carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, on l'appelle la petite Sixtine de l'Oise et il s'agit de la chapelle de l'abbaye royale de Chaly, abbaye devenue au fil des siècles château, léguée en 1912 à l'Institut de France. Mais revenons à notre Sixtine française. Après plusieurs années de restauration, les fresques qui la recouvrent viennent de révéler des détails permettant d'authentifier pour de bon le véritable auteur de cette œuvre, Primatis, un des grands peintres italiens de la Renaissance. Vous allez pouvoir écouter dans quelques instants les explications de Jean-Pierre Bablon, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, président de la Fondation Jacques Marandré. Au cœur de la chapelle, il nous livre une véritable lecture de ses peintures. De la scène de l'Annonciation, au revers de la façade, au voûtin de la nef, avec les pères de l'Église, les évangélistes et les apôtres, tous témoins de la Carnation, Jean-Pierre Bablon nous livre les détails de ce travail d'orfèvre au cœur de la petite chapelle Sainte-Marie, où l'on trouve également le tombeau de la dernière propriétaire des lieux, Nelly Jacquemart.
Cet édifice tout à fait empreint de cet art de Saint-Louis, mais avec un désir d'alléger l'architecture, de lui donner un jaillissement tout à fait particulier. Vous voyez la minceur des supports et des colonnettes, l'ouverture très grande au contraire des vitraux, tant sur cette petite nef de travée que sur les pans coupés du chœur. Et les vitraux que vous voyez ici sont des vitraux de grisaille qui ont été restitués au moment des travaux de Corroyer autour de 1875, mais probablement d'après ce qu'il a trouvé sur place, puisque nous avons des archives qui permettent d'identifier ce qui a pu être fait. Et les analyses qui ont été conduites au moment de la restauration, c'est-à-dire grâce aux échafaudages qui remplissaient entièrement cet édifice jusqu'à l'année dernière, ont prouvé que les éléments un petit peu opaques que vous voyez ici sont vraiment des vitraux du XIIIe siècle. Voilà, et une campagne de restauration de ces vitraux est envisagée à la suite de la restauration des peintures. Date également du XIXe siècle, la dorure, il semble bien que les colonnes n'étaient pas dorées, pas. La dorure de ces fûts de colonnes, très très minces, comme vous voyez. Et puis, la partie basse dont je vais vous reparler. Alors, avant de nous retourner vers la contrefaçade, nous saluons Nelly Jacquemart-André, qui est enterrée ici, comme elle l'avait voulu. Et la statue, qui est assez évocatrice de cette femme, puisqu'elle est allongée comme les gisants des tombeaux étrusques, n'est-ce pas ? Accoudée, elle n'est pas morte, n'est-ce pas ? Elle est en activité, elle a son pinceau et puis son carnet. Elle est donc dans son activité, allongée, elle nous regarde. Et c'est une œuvre de Denis Puech, qui était donc un sculpteur de l'Académie des Beaux-Arts, qui a été sollicité par l'Institut pour ce tombeau. L'ensemble a été restauré ici au moment de la restauration. Alors pour ce qui est des peintures elles-mêmes, donc je vous rappelle que tout tient à la qualité exceptionnelle du commanditaire. C'est à lui que nous nous accrochons en premier, c'est-à-dire le cardinal d'Este. Bon, le cardinal Hippolyte II d'Este était donc un membre illustre de la famille d'Este-Ferrare, c'est-à-dire le grand phare des dynasties princières dans le nord de l'Italie. Et cet homme représentait à la cour de Fontainebleau les intérêts de la famille de Ferrare, qui était liée par des mariages aux Valois-Angoulême, par notamment les René de Ferrare, qui était la sœur de la femme de Louis XII. Donc nous avons là un cousinage très particulier avec François Ier. François Ier accueillait le cardinal d'Este à la cour de Fontainebleau, tellement que le cardinal s'était fait construire un petit palais en face du château de Fontainebleau, c'est vous dire l'intérêt qu'on portait à sa venue et au rôle qu'il avait avec la cour de Rome. Et François Ier s'est d'ailleurs entremis pour lui obtenir le château de cardinal. L'homme était déjà archevêque de Milan, il va devenir archevêque de Lyon, et François Ier, à la suite du concordat de Bologne, va accumuler sur sa tête les abbayes de France. Et notamment en 1541, à la mort du dernier abbé élu par les moines, en fonction de l'application du concordat de Bologne, François Ier va lui donner l'abbaye de Chaly, comme je vous disais, entre autres. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le cardinal s'est beaucoup enthousiasmé pour Pour le site, nous avons la chance d'avoir sa correspondance, enfin de connaître sa correspondance, qui est aux archives de Modène. Et donc, il a fait des travaux assez importants dans l'abbaye, avant de repartir, d'être rappelé en Italie en 1549. Et je me répète à nouveau d'être nommé gouverneur de Tivoli et de créer à cette occasion les jardins de la Villa d'Est. Donc c'est vraiment le plus grand mécène et créateur d'art qui subsiste, qui existait au XVIe siècle et qui font le lien entre la France et l'Italie. C'est vraiment un des piliers de cette civilisation franco-italienne de la Renaissance. Alors cet homme a voulu, il a pris l'initiative de décorer cet édifice gothique d'un ensemble de peintures qui avait une valeur symbolique sur laquelle nous continuons toujours à nous pencher parce qu'on continue à réfléchir. Il semble bien que l'homme voulait, à un moment où la réforme commençait à se glisser en contestation de l'Église catholique et notamment de la présentation des images, de l'utilisation des images, peut-être insister sur ce que l'image pouvait apporter au message chrétien à ce moment-là. Donc on ne peut pas rester insensible à cette idée que l'imposition d'une image qui voulait vraiment dire quelque chose était nécessaire et faisait partie d'une politique de la chrétienté romaine, premièrement. Deuxièmement, nous avions ici une abbaye avec des moines qui étaient réputés 14e, 15e siècle d'être de grands chercheurs sur les écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ils avaient une bibliothèque immense, mais ils ont aussi beaucoup écrit, et nous connaissons les auteurs, les moines auteurs de quantité de ces écrits, notamment des commentaires sur la prophétie d'Isaïe que nous avons devant les yeux, et sur bien d'autres textes. Donc le fait que nous ayons tous les pères de l'Église là-haut en train d'écrire, etc., et puis ce grand dogme présenté, est aussi, me semble-t-il, une sorte d'hommage, de glorification du travail fait dans cette abbaye cistercienne, donc pris en charge par le cardinal italien qui était devenu leur abbé. Alors pour l'artiste, bon, on a prononcé de très bonne heure le nom de Primati, c'est-à-dire le pape du monde italien en France, c'est pas venu à la cour de Fontainebleau au même titre que sur le plan politique, le cardinal Lest était aux côtés de François Ier. Primati, c'était un homme aussi du nord de l'Italie, c'est-à-dire un monde qui est après la grande période romaine, qui s'insère dans le monde des travaux de Raphaël et de Jules Romain, mais qui est aussi un monde de la peinture princière, n'est-ce pas, attaché aux grandes dynasties. Alors que Primati est venu à Fontainebleau, il a beaucoup décoré les châteaux de Fontainebleau, et son style se retrouve ici, attesté depuis longtemps. Et puis on s'était dit, voyons, est-ce que vraiment il est venu, est-ce que d'autres sont venus? Et pour, à l'occasion de la restauration qui a été entreprise après de nombreuses recherches et pointilleuses sur place, on s'est dit, il faut arriver à déterminer, à trouver une solution du problème. Nous avons comparé, grâce à l'amitié que nous avons au musée du Louvre, les figures qui sont ici avec des dessins, qui sont vraiment des dessins de Primati, qui sont au cabinet des arts graphiques, comparé avec d'autres œuvres de Primati, notamment une Pietà tout à fait extraordinaire qui est en Russie, dans un musée de Russie. Et on est arrivé à cette idée que vraiment l'attribution du parti général à Primati ne pouvait pas être niée. Après ça, l'étude s'est faite en échafaudage, à tous les niveaux, n'est-ce pas? On a gratté, on a regardé de près quel était le traitement de la fresque, puisque tout ceci est traité à fresque, n'est-ce pas? À fresco, c'est-à-dire sur du mortier frais, humide, sur lequel la peinture vient s'implanter à l'intérieur même du mortier. Et en regardant de près, bon, les spécialistes qui sont venus ici, nous avons un comité scientifique qui s'est réuni tous les mois pendant un an, est arrivé à l'aboutissement de dire que certes, Primati n'était pas venu ici tout peint, n'est-ce pas? Il n'est pas question de ça. On reconnaît quatre mains différentes, du point de vue de la pratique même du pinceau, mais qu'il semble bien qu'il y ait des indications à secco, n'est-ce pas? C'est-à-dire une fois la peinture à fresque séchée, n'est-ce pas? Qui est des petits cernes, des petites reprises, n'est-ce pas? Qui peuvent nous laisser penser, Primati est certainement venu, que peut-être sa main s'est appuyée sur ses murs. En tout cas, le dessin général du Primati est absolument certain. Nous savons bien que, naturellement, lorsque Raphaël peignait les chambres du Vatican, les stances, il avait 4 ou 5 peintres qui travaillaient sous ses ordres, naturellement, et dont il surveillait le travail. Ces grandes entreprises de peinture décor à l'encontre de la peinture de chevalet demandaient des équipes tout à fait conséquentes. Alors, le thème général ici, c'est l'Annonciation devenant la rédemption, n'est-ce pas ? Bon, donc c'est un mystère profond qui est ainsi décrit. Alors le premier geste, c'est l'intérêt de Dieu le Père pour le salut des hommes. Donc Dieu le Père, il est dans cette espèce de grande mandorle, n'est-ce pas, avec un aspect, alors là, très, bien sûr, très michelangélesque, qui vous rappelle la Sixtine, que d'ailleurs aussi bien Primatis que le cardinal d'Est avait vu. Donc le Père est environné de toute une série de petits angelots, d'abord, qui environnent son esprit créatif, avec ses chairs roses très particulières, et puis au contraire, de grands anges, un petit peu androgynes, qui partent dans tous les sens pour annoncer la grande nouvelle et porter les couronnes aux élus qui vont bénéficier de la rédemption obtenue par la scène qui est en dessous. Alors dans cette architecture très composite, très compliquée, avec cette obsession du tempietto que vous voyez à ce moment-là dans la peinture de Raphaël ou de Pérugin, vous avez le geste de l'archange Gabriel qui descend sur terre, n'est-ce pas ? Il est là, sur la gauche, il a la fleur de lys, qui est l'emblème de la pureté, et puis il a le doigt levé en disant « ceci vient du ciel ». Plus de ça, la colombe, à droite, est en train de faire un vol oblique vers la Vierge. La Vierge est agenouillée, n'est-ce pas ? Elle est en train de lire, aux surprises, la prophétie d'Isaïe qui nous dit que la Vierge enfantera de celui qui sera le sauveur de l'humanité. Donc vous voyez, par cette espèce d'extraordinaire triangulation qui a nécessité, du temps de l'exécution de la peinture, l'obturation de la grande baie du XIIIe siècle qui était au milieu, n'est-ce pas, qu'il a fait l'obturer au moment des peintures. Donc ce dispositif étonnant. Et donc nous pensons, d'après les dates, que nous sommes autour de l'année 1543-1544. Alors la suite se poursuit, les armes, les grandes armes du cardinal d'Est qui sont là, la légende qui fait remonter les origines de la famille d'Est à Hercule lui-même, d'où le fait qu'un certain nombre de princes de la maison d'Est se sont appelés Ercole, et Hercule donc qui avait été chargé de défendre, de dérober les pommes d'or du jardin des Hespérides au dragon Ladon qui les gardait. C'est l'origine de tout ce que vous voyez ici avec ces pommes d'or qui sont sur ces rinceaux. Puis vous avez au-dessus tous les pères de l'Église, les évangélistes et les apôtres qui ont été les transmetteurs du message divin avec ces positions extraordinaires de réflexion, de disposition des personnages dans le ciel et bien sûr les emblèmes qui permettent de les reconnaître l'un et l'autre. Puis nous arrivons ici, jusqu'à là, jusqu'au dernier. Puis nous avons dans les coinçons, qui sont dans les voûtins, qui sont dans la partie tournante du cœur, nous avons tout d'un coup l'évolution, enfin la présentation de l'aboutissement du message, c'est-à-dire la rédemption par la passion du Christ, et avec certainement une volonté absolue de ne pas présenter le Christ, n'est-ce pas, qui est là présent, peut-être présent sur l'autel aussi, mais il n'est pas représenté jamais, et la passion est uniquement évoquée par des angelots, qui sont un petit peu ceux qui viennent de l'autre scène, et qui portent tous les instruments de la passion, c'est-à-dire le fouet, le voile de Véronique, et même un enfant qui porte la croix lui-même. Hein. Alors maintenant, pour ce qui est des peintres, nous avons donc dit que nous sommes en face de Primatis et de son équipe. Nous avons, à la fin du 18e et du 19e siècle, du fait que la chapelle était environnée d'arbres et sur un sol très mouillé, les parties basses avaient été extrêmement dégradées, surtout les parties basses. Donc Madame de Vatry a fait appel à un élève d'Ingres qui s'appelait Balz, et c'est Balz qui a été chargé de repeindre à l'huile la partie basse qui est la scène même de l'Annonciation, c'est-à-dire Gabriel et la Vierge. À l'huile, je dis, ça veut dire l'huile, ça veut dire qu'on met une couche d'enduit assez épaisse sur le fond de mortier qui portait la fresque, puis qu'après ça, on travaille à l'huile. Donc vous voyez une épaisseur qui se manifeste. Et le problème qui a été posé au comité, à la décision, donc argumenté sans cesse de réunion en réunion, était de savoir qu'est-ce qu'on fait du 19e. On le supprime, qu'est-ce qu'on trouve dessous, on le garde, et alors qu'est-ce qui nous cache du 16e, n'est-ce pas ? Bon, le travail extraordinairement minutieux qui a consisté aussi à envoyer des petits prélèvements de pigments au laboratoire des monuments historiques pour analyser les pigments, pour savoir si les pigments étaient des pigments du 16e siècle ou des pigments du 19e siècle, bon, des petites pincées comme ça, savoir si c'était du bleu de cobalt, etc. Et au vu de tous ces allées et venues, on a décidé de dégager ce qu'on pouvait lorsque la fresque révélait vraiment une réalité. Et la réalité, ça a été la redécouverte de la partie basse de cette colonnade de couleur ocre, n'est-ce pas, qui est une chose tout à fait extraordinaire, une poésie étonnante et en même temps d'une géométrie un petit peu invraisemblable, qui est vraiment un tracé de la volonté de Primatis et de son équipe, sur lequel on continue à travailler avec des historiens d'art aujourd'hui pour savoir quelle est l'origine de cette idée, mais qui nous ramène aussi, comme je vous le disais, un peu à ces obsessions de colonnade qu'on voit sur d'autres travaux, d'autres tableaux de Primatis, mais aussi chez Raphaël ou Jules Romain, et puis de garder au contraire tout ce pourquoi il n'était pas question d'aller chercher plus loin que la restauration de base lui-même, qui a sa qualité, c'est un élève d'art, n'est-ce pas ? La figure même de là se retrouve dans certaines peintures qui sont au musée de Montauban, des peintures d'Ingres. Et donc, on a décidé qu'on laisserait très apparente la frontière entre la partie 19e, qui d'ailleurs se voit aussi par la brillance mate d'une peinture à l'huile, avec la fresque qui est au contraire beaucoup plus transparente, avec des couleurs d'aquarelle. Et vous voyez cette séparation qui se fait volontairement bien accentuée, bien visible, avec cette séparation se fait par un biseau, puisqu'il y a différentes épaisseurs. On a bien marqué le biseau, et ce biseau, pour faire rentrer tout de même la fresque, est peint dans la couleur de la fresque et non pas de la couleur de la partie basse à l'huile, n'est-ce pas ? Alors, certains éléments, on a décidé de les conserver pour montrer qu'on avait gardé les choses. C'est ainsi que la Vierge a deux auréoles, si vous regardez bien. Elle a l'auréole de base en bas, et puis en haut, l'auréole qu'on a retrouvée, qui prouvait que peut-être la tête de la Vierge était un petit peu plus élevée que celle que nous présente le peintre du 19e. Et le même travail a été fait partout. On a analysé toutes les natures de bleu du ciel, l'importance des nuages, tout ça avec les recherches sur les pigments. On n'a pas été trop loin, chaque fois qu'on n'était pas sûr qu'on ne voulait pas ajouter à un élément qu'on connaissait. Ceci est sensible surtout à la figure de Saint-Barthélemy qui est là. Et donc on a essayé de retrouver aussi une harmonie générale dans les bleus, qui certainement, au 19e siècle, avait été repris et accentué vers des bleus plus outre-mer, alors que là, nous nous retrouvons dans un bleu gris qui fait moins d'opposition avec les nuages et qui donne une ordonnance générale plus agréable. Enfin, pour la partie basse, peut-être y avait-il un décor de drapé, comme ici. On n'en est pas sûr, les arguments sont équivoques. En tout cas, ce que vous voyez là, c'est le travail des balses, c'est-à-dire on a refait ce drapé qui imite aussi ce qu'on a fait quelquefois au Moyen-Âge avec des drapés sculptés. Là, c'est des drapés peints, donc qui ont été aussi repris, parce qu'ils étaient très abîmés, par nos restaurateurs et restauratrices qui ont refait ces beaux drapés, ainsi que la série complète des blasons de tous les abbés de Chalie. Il en est de même, tout le décor qui est ici.
Vous venez d'entendre Jean-Pierre Bablon, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, président de la Fondation Jacques-Marandré. Nous étions dans la nef de la chapelle Sainte-Marie, chapelle de l'abbaye royale de Chalie, fondation de l'Institut de France. Pour en savoir plus sur ce patrimoine, connectez-vous au www.institut-de-france.fr et poursuivez la visite du domaine de Chalie en poussant les portes de l'abbaye transformée en château en compagnie de Nicolas Sanfargarno. Avant de terminer par une promenade olfactive au cœur de la roseraie, le paysagiste André Gamard nous livre quelques-uns de ses secrets. Deux émissions Carrefour des Arts sur Canal Académie. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles émissions.